Chapitre 25. Les trois derniers versets du chapitre 24 jusqu'au verset 21 du chapitre 25, Sédécias. Sédécias était l'oncle de Jéhoïakin et avait été établi par le roi de Babylone, qui avait changé son nom de Matania en celui de Sédécias. Sa mère, Amutal, était une fille de Juda. Nous ne répéterons pas à son sujet des remarques faites précédemment. Nebuchadnezzar, en instituant Sédécias, comptait avoir un roi dépendant de lui et qui ne fomenterait pas de nouvelles révoltes. Les deux prédécesseurs de Sédécias avaient obligé le roi de Babylone à faire deux expéditions contre Jérusalem, et il entendait maintenant avoir la paix avec cette nation orgueilleuse et remuante, soumise à son sceptre. Le prophète Ézéchiel, chapitre 17, décrit, dans une parabole, la politique et les desseins de Nebuchadnezzar. Le grand aigle babylonien avait arraché Jéhoïakin, la plus haute des jeunes pousses du cèdre du Liban, et l'avait transporté à Babylone. Il avait ensuite pris de la semence du pays, Sédécias, et l'avait plantée près des grandes eaux comme un saule. Elle était devenue une vigne, s'étendant, mais pas en hauteur, car le roi de Babylone voulait avoir, sous sa dépendance, en Juda, une royauté abaissée. Cette vigne s'était tournée vers un autre grand aigle, le pharaon d'Égypte, au lieu de rester soumise au premier. Dieu déclare par le prophète ce qui en résultera. Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Chapitre 24, verset 20. Ce fait était une infamie et un sacrilège aux yeux de l'Éternel. Et voici pourquoi. Nebuchadnezzar avait fait jurer par Dieu à Sédécias. 2 Chroniques 36, verset 13. Et Ézéchiel nous dit qu'il avait fait alliance avec lui et lui avait fait prêter un serment d'exécration. Ainsi, ce roi ajoutait à toutes ses autres transgressions la rupture d'un serment fait au nom de l'Éternel devant les nations idolâtres, prouvant ainsi devant elles qu'il ne faisait aucun cas du Dieu auquel il prétendait appartenir. Les chroniques enregistrent quatre causes du jugement de ce roi. Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Il ne s'humilia pas devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. C'est la rébellion contre la parole et l'Esprit de Dieu. Il se révolta contre Nebuchadnezzar, qui lui avait fait jurer par Dieu. Il roidit son cou et endurcit son cœur pour ne pas retourner à l'Éternel. 2 Chroniques 36, versets 12 et 13. Quant au premier point, si souvent répété au sujet de ces derniers rois de Juda, il ne nous est pas dit, à propos de ceux qui précèdent immédiatement Sédécias, que leur idolâtrie fut aussi criante que celle de Manassé, ou du moins les détails ne nous en sont pas donnés. Mais pour Sédécias, nous sommes renseignés d'abord par les chroniques, 2 Chroniques 36, versets 13 et 14, où il nous est dit qu'avec tous les chefs du peuple, il rendit impure la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. Et le prophète Ézéchiel, dans sa vision, chapitre 8, nous donne les détails de ces abominations. L'idole de jalousie, cette Astarté instituée par Manassé et qui provoque l'Éternel à jalousie, était là à l'entrée du temple. En dedans du parvis, dans les cabinets d'images, toutes sortes d'idoles peintes devant lesquelles les anciens d'Israël faisaient fumer l'encens. À l'entrée de la porte nord de la maison, des femmes pleurant amusent, probablement Adonis. À l'entrée du temple, entre le portique et l'autel, des hommes prosternés vers le soleil levant. Les pensées du cœur du peuple n'étaient pas meilleures. Au lieu de reconnaître que le jugement de Dieu les atteignait à cause de leur infidélité, ils disaient « Nous serons comme les nations, comme les familles des pays, en servant le bois et la pierre. » Ézéchiel 20, verset 32. Ce même prophète nous présente également l'état moral des prophètes, des sacrificateurs et des princes. Partout la violence, la profanation, le gain des honnêtes, l'extorsion et la rapine. Ézéchiel 22, versets 23 à 31, et Jérémie 32, versets 30 à 35. La révolte de Sédécias pouvait avoir, aux yeux du monde, des motifs politiques plausibles. Comme cela arrive de nos jours, elle trouvait des sympathies parmi tous ceux qui étaient impatients du joug de Babylone. Mais ce joug était selon Dieu, et l'Éternel le proclamait d'une manière visible par son prophète Jérémie, qui marchait par la ville, portant un joug de bois sur son cou. Le roi de Juda aurait dû le savoir et s'en souvenir, s'il avait eu le moindre souci de servir l'Éternel. Mais cet homme, si brave pour se révolter, était au fond plein de frayeur, ayant peur de se compromettre vis-à-vis des princes de son peuple. Il était sans doute soutenu dans son action par les nations environnantes, comme nous le voyons en Jérémie 27, verset 3, où les rois de Moab, d'Édom et les fils d'Ammon, de Tyr et de Sidon lui avaient envoyé leurs messagers pour l'encourager à secouer avec elle le joug de Babylone. Les chefs de Juda étaient dans les mêmes pensées, et se faisaient soutenir dans leurs idées de résistance par les prophètes qui usaient de leurs dons pour induire le peuple en erreur et le conduire dans un chemin de rébellion contre l'Éternel. Jérémie 27, versets 12 à 22. On comprend le courroux de Nebuchadnezzar, qui, en trois fois, sous trois règnes successifs, fut obligé de retourner contre Jérusalem pour l'assiéger, et la rage de ce despote auquel tout était soumis de la part de Dieu, l'Éternel le lui avait ouvertement proclamé, Daniel 2, versets 37 à 38, en se voyant méconnu et bafoué par une faible peuplade abaissée du royaume d'Israël. Il ne tarda pas à se mettre en chemin pour punir la révolte. Ézéchiel nous décrit son incertitude quant à l'exécution de sa vengeance. Commencera-t-il par Rabat des fils d'Ammon ou par Jérusalem? Il pratique la divination pour le savoir. La main de l'Éternel, sans qu'il s'en doute, le conduit contre Juda. « J'en ferai, dit l'Éternel, une ruine, une ruine, une ruine. » Ézéchiel 21, versets 26 à 31. Nebuchadnezzar bâtit une circonvallation tout autour de Jérusalem, entreprend le siège qui dure environ 8 mois. La famine se renforce dans la ville, selon la parole de Jérémie. « Et je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles, et ils mangeront chacun la chair de son prochain, dans le siège et dans la détresse dont les enserreront leurs ennemis et ceux qui cherchent leur vie. » Jérémie 19, verset 9. Pendant tout ce temps, malgré les innombrables dangers qui le menacent, Jérémie tient bon pour l'Éternel selon sa parole. « Je te ferai être à l'égard de ce peuple une muraille d'airain bien forte. Ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas sur toi. Car je suis avec toi pour te sauver et pour te délivrer, dit l'Éternel, et je te délivrerai de la main des iniques et te rachèterai de la main des violents. » Jérémie 15, versets 20 et 21. Sa parole, toujours répétée, est « Soumettez-vous au joug du roi de Babylone. Rendez-vous à lui. » Il donne le même avis aux nations confédérées avec Juda, chapitre 27, versets 3 à 11, à Sédécias et à son peuple, versets 12 à 15. Les chefs persécutent le prophète et cherchent à le faire mourir, prétextant qu'il rend lâche les mains du peuple. Sédécias a peur des chefs. Chapitre 38, verset 24. À un moment donné, le pharaon vient au secours de Jérusalem avec son armée. Ézéchiel 17, verset 17, Jérémie 37, verset 5. Les Chaldéens, apprenant cette nouvelle, se retirent de Jérusalem. Jérémie détrompe le peuple. C'est, dit-il, l'armée du pharaon qui retournera au pays d'Égypte, et les Chaldéens reviendront. Au moment où ces derniers se retirent, le prophète sort de Jérusalem pour s'en aller dans le pays de Benjamin, au milieu du peuple, pour avoir là sa part. Chapitre 37, verset 12. Il est fait prisonnier, accusé d'être transfuge, persécuté, jeté dans une basse fosse, où il enfonce dans la fange. Les princes du peuple sont les plus acharnés contre lui. Ebed-Melek, l'Éthiopien, parle au roi en sa faveur et le retire de la fosse. Chapitre 38. Au jour de la prise de la ville, cet homme est sauvé, selon la parole du prophète. Chapitre 39, verset 15. Sédécias lui-même persécute Jérémie et l'enferme dans la cour de la prison. Chapitre 32, versets 2 et 3. Mais de fait, c'est le roi qui est le captif de ses capitaines et de ses princes, et n'ose leur résister, car, dans le fond, il ne hait pas Jérémie, mais est dominé par la crainte des hommes au lieu de l'être par celle de l'Éternel, qu'il a méprisé et méconnu. Chapitre 38, versets 24 à 28. Le prophète, avec une hardiesse qui s'appuie sur la parole et la promesse de Dieu, ne cache rien au roi de ce qui va arriver. Destruction, pillage, incendie. À mesure que le jugement approche, il en crie tous les détails aux oreilles de tous et à celles du roi. Il dit « Sédécias, roi de Juda, ne sera pas délivré de la main des Chaldéens, car certainement il sera livré en la main du roi de Babylone, et il lui parlera bouche à bouche, et ses yeux verront ses yeux. » Chapitre 32, verset 4. Et encore « Tes yeux verront les yeux du roi de Babylone. » Chapitre 34, verset 3. Et Ézéchiel, Le prince qui est au milieu d'eux portera son bagage sur l'épaule dans l'obscurité et sortira. On percera le mur pour le faire sortir par là. Il couvrira sa face, afin qu'il ne voie pas de ses yeux le pays. Et j'étendrai sur lui mon filet, et il sera pris dans mon piège, et je l'amènerai à Babylone, dans le pays des Chaldéens, mais il ne le verra point. Et là, il mourra. Ézéchiel 12, versets 12 et 13. Ces deux prophéties s'accomplissent à la lettre. Quand Sédécias, à l'occasion du départ momentané de l'armée chaldéenne, proclame un jubilé et ordonne que tous les serviteurs et servantes israélites soient mis en liberté, tous les princes de Juda et les princes de Jérusalem, les eunuques et les sacrificateurs, et tout le peuple du pays passent entre les pièces d'un veau divisé pour confirmer l'alliance qu'ils font devant l'Éternel. Jérémie 34, versets 18 et 19, voir Genèse 15, verset 9. Mais, à peine la promesse faite, ils la transgressent, reviennent en arrière et reprennent leurs serviteurs et leurs servantes pour les assujettir de nouveau. Aussi, le jugement sur eux est-il prononcé avec la plus grande énergie par le prophète. Chapitre 34, versets 20 à 22. Seul un petit résidu qui avait accepté le message de l'Éternel et s'était livré aux Chaldéens a la vie sauve. Deux Rois 25, verset 11. Ils sont les figues excellentes du chapitre 24 de Jérémie. Jérusalem est prise. Sédécias s'enfuit avec son armée dans la direction du Jourdain. Son cortège est dispersé. Il est pris, amené à Nebuchadnezzar, jugé, comme nous l'avons vu, et emmené à Babylone, où on le met sous garde, en prison, jusqu'au jour de sa mort. Jérémie 52, verset 11. Seulement, selon la parole du prophète, il ne meurt pas de mort violente. Jérémie 34, verset 4 et 5. L'Éternel ayant égard au moindre signe de retour, chez ce pauvre roi qui avait eu un moment de pitié pour le serviteur de l'Éternel et avait écouté sa parole, quoiqu'il manquât de courage pour la suivre et de foi pour s'humilier devant Dieu. Le peuple est transporté à Babylone. Les sacrificateurs et ceux qui avaient aidé à la résistance meurent de mort violente à Ribla. Les derniers vestiges de la puissance et de la prospérité de Juda disparaissent à la suite de cette attaque. Même les deux colonnes du temple sont brisées en morceaux et emportées à Babylone, ainsi que tous les reins, l'or et l'argent de la maison de Dieu. L'Éternel avait été méprisé. Qu'avaient encore à faire Jacquin et Boaz à Jérusalem? La force, qui était en l'Éternel, s'en était allée par l'infidélité de Juda, et Dieu l'avait détruit au lieu de l'établir. C'était ainsi que se terminait l'histoire de l'homme placé sous sa responsabilité devant Dieu. Dieu devait l'abandonner, mais ses promesses sont sans repentance. Il rétablira le règne de son oint sur ces deux colonnes merveilleuses, et ce règne ne pourra jamais être ébranlé. Versets 22 à 26. Guédalia. Nebuchadnezzar établit Guédalia, fils d'Akikam, sur le peuple laissé dans le pays pour y être vigneron et laboureur. Cet Akikam avait sauvé Jérémie au jour de Jéhoïakim, lorsque, semblable à Uri le prophète, il avait prophétisé contre Jérusalem. Jérémie 26, verset 24. Sans doute, ce fait avait influé sur l'esprit du roi de Babylone qui respectait et protégeait Jérémie. Guédalia, demeuré à Mitzpah, ville forte, Casa, roi de Juda, avait bâti avec les pierres de Rama. Un roi 15, verset 22. C'est là que se rendit Jérémie et que tous les réchappés des contrées environnantes, avec la pauvre population qui y était restée, vinrent chercher la protection de Guédalia, ce noble lieutenant du roi de Babylone. Il rassura le peuple, lui jurant qu'il n'avait rien à craindre en acceptant la servitude des Chaldéens. Il y eut pour ce pauvre résidu un répit de quelques mois. Ils récoltèrent du vin et des fruits d'été en grande abondance. Jérémie 40, verset 12. Le culte de l'Éternel paraît même avoir été remis en honneur, dans un temps où le temple était complètement détruit et ruiné. Du moins, y avait-il une maison de l'Éternel, où ceux qui menaient deuil sur l'état d'Israël pouvaient monter. Jérémie 41, versets 4 et 5. Ce qui restait encore de chef des forces se réunit autour de Guédalia, Ismaël, fils de Nétania, de la race royale, à leur tête. Ce dernier venait avec de mauvais desseins, envoyé par Baalis, roi des fils d'Ammon, et poussé sans doute par sa propre ambition. Guédalia, averti de la trahison projetée par Jocanan, l'un des chefs, se refuse à y croire et à prêter la main au meurtre d'Ismaël. Jérémie 40, versets 13 à 16. Ismaël le frappe lâchement, se révoltant une dernière fois contre l'autorité du roi de Babylone. Il massacre les adhérents du gouverneur et les guerriers chaldéens qui se trouvaient là. Le second jour, il tue les hommes qui y étaient venus, ignorants peut-être et non exempts de pratiques païennes, mais le cœur brisé, pour chercher l'Éternel, et amène captif chez les fils d'Ammon tout le reste du peuple qui était à Mitzpa, avec les filles du roi. Jérémie 41, versets 4 à 10. Jocanan et les chefs des forces le poursuivent, l'atteignent près des eaux de Gabaon, le défont et lui reprennent les captifs, tandis qu'il réussit à s'échapper avec 8 hommes et à se rendre auprès de Baalis. Ses captifs délivrés, remplis d'appréhension et désirant se rendre en Égypte, consultent l'Éternel par Jérémie pour obtenir une réponse selon leur désir. Mais, dans le fond, ils sont décidés à ne pas obéir si cette réponse n'est pas favorable à leur projet. Le prophète leur donne un avertissement solennel. S'ils demeurent, c'est le salut, car la bénédiction accompagne toujours l'acceptation du jugement de Dieu, quand l'âme s'y soumet humblement et malgré tout compte sur lui pour bénir. Descendre en Égypte, où ils pensaient trouver la sécurité, c'était aller au-devant d'un jugement inévitable. Jérémie 42. Dans leur orgueil, les chefs ne veulent pas accepter l'humiliation et traitent de mensonge la parole de Dieu. N'en est-il pas toujours ainsi? Quand Dieu présente sa parole qui condamne le monde et la volonté de l'homme à des âmes qui ont choisi le monde et leur propre volonté. Ils disent devant les sentences les plus claires « L'Éternel ne t'a pas envoyé pour dire cela. » C'est un mensonge. Jérémie 43, verset 2. Ils n'écoutèrent donc point la parole de l'Éternel, fidèles jusqu'au bout à une seule chose, leur révolte contre Dieu, et ils emmenèrent avec eux Jérémie et le fidèle Baruch, ne voulant pas laisser en arrière ces témoins de leur désobéissance et de leur incrédulité. Ils n'oublient qu'une chose, c'est qu'ils emmènent avec eux la parole qui les condamne. Jérémie continue jusqu'au bout l'exercice fidèle du don de prophétie que Dieu lui a confié. À Tacpanès, comme à Jérusalem, il est le témoin de la vérité de Dieu. Il annonce l'invasion future de l'Égypte par Nebuchadnezzar qui, alors, se souviendra de ses révoltés. Jérémie 43. Ces misérables recommencent à servir d'autres dieux dans le pays d'Égypte où ils se sont enfuis. Leur état nous est décrit en quelques mots. Ils ne se sont pas humiliés jusqu'à ce jour, et ils n'ont pas eu de crainte, et ils n'ont pas marché dans ma loi et dans mes statuts que j'ai mis devant vous et devant vos pères. Jérémie 44, verset 10. Aussi, Dieu déclare que de tous ceux qui sont descendus en Égypte, sauf un fort petit nombre de réchappés, verset 28, il n'y aura ni réchappé ni résidu pour retourner dans le pays de Juda. Verset 14. Le peuple déclare ouvertement vouloir continuer ses sacrifices à la reine des cieux et lui attribue la prospérité dont il avait joui autrefois à Jérusalem. Jérémie 44, versets 17 et 18. La calamité prédite l'atteint en Égypte, dont l'Éternel livre le pharaon Ophra en les mains du roi de Babylone. Verset 30. Versets 27 à 30, la fin. En la 37e année de la transportation, Évil-Mérodac, roi de Babylone, sort Jéhoiakim de prison et l'entretient à sa cour, tous les jours de sa vie. La lampe qui semblait éteinte recommence à jeter une faible lueur, preuve que l'Éternel a toujours égard aux promesses faites à David, son oint, et que, malgré tout, sa grâce veille sur cette race coupable. Il allait arriver, en effet, un jour, et il n'était pas éloigné, où, selon Ésaïe, l'Esprit de l'Éternel annoncerait aux prisonniers l'ouverture de la prison et proclamerait l'année de la faveur de l'Éternel, l'an agréable du Seigneur. Le peuple en voudrait-il alors? Hélas, il rejette loin de l'Éternel, comme il a rejeté Jérémie et tous les prophètes avant lui. Mais, malgré tout, les promesses de Dieu s'accompliront à son égard, et son jubilé définitif se lèvera, quand l'épée du jugement aura fait son œuvre étrange en la terre et que les portails éternels se hausseront pour laisser entrer le roi de gloire.